France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Christelle Rebière.
Un divorce économique à l'amiable. Quand un employeur et son salarié sont lassés l'un de l'autre, la rupture conventionnelle vole à leur secours. Cette rupture du contrat de travail mutuellement consentie arrange les deux parties. Ni démission, ni licenciement. Et les salariés quittent leur emploi en bénéficiant de l'assurance chômage. Le dispositif a été créé en 2008 en pleine crise financière pour fluidifier le marché du travail. Aujourd'hui, près de 500 000 salariés l'ont utilisé l'année dernière pour un coût de 9 millions d'euros à la collectivité. Alors, les ruptures conventionnelles sont-elles victimes de leur succès ou y a-t-il des abus ? Vu le coût du divorce, le gouvernement souhaiterait revoir les règles pour économiser 400 millions d'euros à l'avenir. Le patronat estime qu'on devrait monter jusqu'à 1 milliard. Il en a été question la semaine dernière lors d'une réunion sur l'avenir de l'assurance chômage et il faudra trouver un accord avant fin janvier. Alors, essayons de la regarder de l'intérieur, cette rupture conventionnelle. Comment on la vit ? Que nous dit-elle du monde du travail en ce moment, de notre rapport au travail aussi, ce sont souvent des licenciements déguisés. Et quels bénéfices pour les entreprises et pour les salariés ? C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Bonsoir Julie.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, je vous en prie.
Moi je tenais à témoigner parce qu'il y a 3-4 ans j'ai fait un burn-out dans mon entreprise. Et la rupture conventionnelle a été très vite proposée par ma patronne. Et je l'ai acceptée sans me poser de questions. Alors oui, pendant un an et demi, j'ai pas travaillé et j'ai bénéficié du chômage. Mais ça m'a permis de retoucher terre, reprendre ma respiration, savoir ce que je voulais faire, me former, trouver un nouveau métier, me reconvertir. Et là, ça fait un an que j'exerce ce nouveau métier. Et je suis extrêmement reconnaissante de cette solution qui, bien qu'il y ait eu une perte de salaire, enfin une perte de revenus avec le chômage, m'a permis de sortir d'une situation qui ne me convenait plus en fait. Et si ça n'avait pas été proposé, le risque c'était que je reste en arrêt maladie longue durée, ce qui d'une autre façon aurait aussi coûté... à l'État, en fait.
Bien sûr. Donc, pour vous, c'était la solution idéale, au fond, Julie ?
Exactement.
Il fallait couper le cordon et c'était la solution idéale.
Oui, ça m'a... Je suis extrêmement reconnaissante et je l'ai vraiment pris comme un second souffle, une étape qui m'a permis de passer à une autre sans prendre trop les pieds dans le tapis. Quoi.
Merci pour votre témoignage. On va parler de ces ruptures conventionnelles avec Benoît Serre, coprésident du groupe de réflexion Cercle Humania qui réunit 600 DRH. Bonsoir et bienvenue dans ce studio.
Merci.
Il y a aussi Thomas Breda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris et co-responsable du pôle Travail et Emploi de l'Institut des politiques publiques. Et bonsoir à vous, Denis Gravouille.
Bonsoir.
Secrétaire confédéral de la CGT. Ce qu'on entend là, finalement, Julie qui nous dit « j'ai fait un burn-out », finalement, ça m'a permis de souffler et de me reconvertir. C'est assez classique, Benoît Serre.
Alors, fort heureusement, non. Parce que fort heureusement, toutes les ruptures conventionnelles ne reposent pas sur un burn-out. C'est vrai que la situation décrite par Julie, c'est une des vertus du fait de trouver un moyen de se séparer sans conflit et d'être accompagné, en l'occurrence, par l'assurance chômage, puisque, comme vous l'avez rappelé, la rupture conventionnelle ouvre droit au chômage. Donc c'est une situation très particulière, heureusement pas très fréquente, mais qui montre bien que c'est un outil qui a plusieurs vertus selon les situations. Cette situation-là est une situation difficile. Je suis assez d'accord avec son raisonnement consistant à dire... si j'avais été pris en charge, arrêté, ça aurait coûté aussi cher à l'assurance maladie. C'est pas le même budget, mais enfin c'est pareil. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un outil qui a beaucoup de vertus parce qu'il s'applique dans des situations extrêmement différentes. Mais au-delà du burn-out, ce qui est intéressant dans le témoignage que Julie a donné, c'est que, et on l'observe assez fréquemment, vous avez des gens qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ces individus veulent quitter leur entreprise. Et ils ne peuvent pas, pour des raisons évidentes, démissionner parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ils n'auront plus de revenus. Donc, c'est pas possible.
Il n'y a pas d'assurance chômage.
Et ben, avant ça, les gens attendaient de trouver un moyen de se faire licencier ou trouver une solution, ce qui les mettait dans une mauvaise posture. Et ce qui, l'entreprise faisait qu'elle avait un collaborateur, une collaboratrice un petit peu démotivée, on va dire. Grâce à ça, c'est des situations qui ne perdurent pas. Donc l'entreprise y trouve un bénéfice et le salarié y trouve un bénéfice.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, Thomas Breda ?
Oui, absolument. Je crois que c'est le cœur du
vraiment. C'est vraiment le divorce à l'amiable par excellence, quoi.
Exactement. C'est le cœur du dispositif, donc est mis en place en 2008 par Nicolas Sarkozy, un peu après son élection. C'est ça, hein, c'est de faciliter les départs et de faciliter aussi les réappariements, comme disent les économistes, sur le marché du travail. Bah, c'est-à-dire que, effectivement, quand ça va plus, quand un salarié est démotivé, quand il a envie de partir, s'il doit démissionner de lui-même, et qu'il n'a pas tout de suite de perspective de réemploi, et bah, ça va lui coûter cher. Et donc ça, c'est un dispositif qui permet, si l'employeur est prêt à verser l'indemnité de départ, de se quitter à l'amiable et du coup de se reformer éventuellement, de retrouver un emploi. Donc ce que disent les économistes, ça fluidifie le marché du travail dans des situations exactement comme celle décrite par Julie.
Denis Gravouille.
Alors, je vais mettre un petit bémol là-dedans, parce que moi, ce que j'entends dans le témoignage de Julie, c'est que quand même, elle a fait un burn-out. Donc déjà, c'est déjà un problème de savoir que... Alors, je ne connais pas les causes, on n'a pas eu le temps de témoigner sur les éléments-là. Enfin, on est en France, on a quand même une violence dans le travail qui se traduit par des ruptures qui sont... Est-ce associée à l'amiable, mais enfin, la poursuite du travail n'était pas à l'amiable. Donc ça, c'est quand même un problème. Et puis ensuite, il faut quand même dire pourquoi on est là. C'est qu'on explique ce que sont les ruptures conventionnelles, mais parce que le gouvernement veut des économies sur l'assurance chômage de ceux qui ont eu une rupture conventionnelle. Donc, en prétendant que les salariés abuseraient des ruptures conventionnelles. Mais pour qu'il y ait un abus, il faudrait quand même qu'ils aient hypnotisé, gouroutisé leur employeur pour la signer. Il faut quand même que l'employeur le...
Pour vous, il y a des abus, il n'y en a jamais ?
Ah ben, il y a des abus du côté employeur, j'en connais, parce qu'on a dans nos permanences pas mal de gens, j'en ai connu dans des personnes très proches de mon entourage, à qui qu'on poussait à la porte pour dégraisser, pour virer du monde dans des services, et à qui on disait, démissionnez, ou alors faites une rupture conventionnelle. Ah non, c'est trop cher pour vous, vous avez trop d'ancienneté, donc on pousse à la démission. Il faut parfois se battre même pour obtenir une rupture conventionnelle. Donc ce problème-là, c'est déjà que les ruptures conventionnelles, il n'y a aucun employeur qui l'accepte de force. Par contre, des salariés qui sont poussés à au moins avoir ça parce que ça évite des prud'hommes pour les employeurs, on en connaît une bonne partie.
Des abus, Thomas Breda, il y en a ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle abus. C'est-à-dire que quand le dispositif a été mis en place, on a essayé de savoir s'il allait remplacer des licenciements, c'est-à-dire que des licenciements conflictuels qui iraient au prud'homme se transformeraient en rupture conventionnelle ou des démissions. Et la réponse, c'est un tout petit peu des deux, mais c'est surtout des séparations qui n'auraient pas eu lieu et qui se mettent à avoir lieu. Donc des départs qui n'auraient pas eu lieu sinon. Et ce qu'on appelle abus souvent, c'est l'idée que ça aurait été un départ volontaire sans indemnité chômage. Et dans des cas où l'employeur effectivement est prêt à payer l'indemnité de départ, ces démissions ont pu être renégociées vers des ruptures conventionnelles et les gens peuvent partir, ils ont de l'indemnité chômage, ils ont le temps de se reformer. Est-ce que c'est vraiment un abus ? La question se pose. On voit dans le cas de Julie que c'est pas forcément un abus. Ça peut aussi être une forme de ressource.
Quand Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, dit « il n'est pas normal de considérer qu'on peut se mettre au chômage pour aller voyager », Thomas Breda.
Alors, il y a toujours, évidemment, quelques abus. Donc après, on légifère
ça
par
existe.
L'exemple. On a besoin de trouver, faire des économies dans un contexte. Donc, des politiques ont été mises en place par des gouvernements de même sensibilité. Emmanuel Macron a également proposé d'indemniser les départs volontaires. Donc à une époque, premier quinquennat, programme d'Emmanuel Macron, il propose d'indemniser les départs volontaires. Mmh. Aujourd'hui, on change complètement la philosophie. Dans un contexte d'économie budgétaire, on dit... On va raboter ce système-là pour avoir...
En fait, le système, il est trop généreux, c'est ça, Benoît Serre ?
Non, je ne pense pas que ce soit trop généreux. Le système, il donne une vertu très importante, qui était de créer des modèles de fluidification du monde du travail. Après, je reconnais, je l'ai déjà dit ailleurs, donc je peux le redire, cette espèce de système qui consiste à légiférer en permanence, en justifiant par les abus le fait qu'on change des règles qui fonctionnent bien... Sachant qu'on est quasiment dans l'incapacité de chiffrer ou de démontrer ces fameux abus, ça me paraît un petit peu excessif, parce que au-delà du changement de politique, vous avez eu raison de rappeler que l'actuel président de la République avait voulu rendre les démissions, dans certaines conditions, accessibles à l'assurance chômage. Alors, d'un coup, on fait tout à l'inverse. Tout ce que je vois, c'est que les prud'hommes vont pas plus vite, à ma connaissance. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas parlé, vous savez que l'actuel président de la République, toujours, a mis en place ce qu'on appelle le barème Macron, qui vous limite... les indemnités légales, il faut qu'il les prédétermine. Pour en sortir, il faut que vous prouviez le harcèlement. Donc qu'est-ce que font les gens quand ils veulent sortir d'une entreprise et qu'ils n'arrivent pas à obtenir une rupture conventionnelle ? Ils vont chercher à être licenciés en essayant de prouver des harcèlements qui existent ou qui n'existent pas. Tous les avocats vous le diront. C'est créer des tensions du marché du travail, et je pense que Negravou sera d'accord avec moi, c'est pas la peine d'en rajouter. Il y en a suffisamment comme ça.
Mmh. Bonsoir Marjolaine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue sur France Inter, nous vous
Merci.
Écoutons.
Alors moi, je, à l'inverse, je suis chef d'entreprise d'une librairie et j'ai été prise en chantage par une de mes salariées et particulièrement par la médecine du travail qui m'a obligée à signer une rupture conventionnelle en me faisant miroiter qu'elle irait plus loin et qu'elle déclarerait ma salariée inapte, ce qui me coûterait encore plus cher si je ne validais pas la rupture conventionnelle, dont je n'avais pas du tout envie. Je souhaitais garder ma salariée qui travaillait très bien. Et,
mais elle souhaitait partir ?
Oui, elle souhaitait partir, mais moi, je n'étais pas d'accord. Et en fait, la médecine du travail m'a fait du chantage et m'a mis la pression, ce qui allait me coûter encore plus cher qu'une rupture conventionnelle que je n'avais déjà pas les moyens de payer.
Mmh. Benoît Serre, du chantage, dit Marjolaine. Je vous vois hausser les sourcils quand
même. Non, d'abord, je note que alors qu'on justifierait cette réduction ou cette complexification des ruptures conventionnelles individuelles par les abus des salariés, que l'exemple qu'on nous donne, ce n'est pas un abus des salariés.
Non.
C'est un abus de la médecine du travail. Moi, je ne suis pas responsable de la médecine du travail. Donc c'est vrai que c'est un petit peu curieux, mais
abus
c'est sûrement vrai. Pardon ?
Abus ou pas ?
Abus ou pas, j'en sais rien. Mais en attendant, c'est une situation un peu particulière qui doit sûrement exister. La question qu'il faut se poser quand même, c'est quand quelqu'un veut vraiment partir...
C'est la question que j'allais poser.
Il faut mieux trouver
parfois,
une solution
amiable. Parfois, il vaut mieux
le
laisser partir, en fait.
Le laisser partir, parce que sinon, c'est quelqu'un qui est là... qui donc a un problème de motivation, d'engagement, et ça peut mal tourner pour les deux d'ailleurs.
Ça règle ce genre de problème finalement, Thomas Breda. Ce désaccord entre un salarié, à un moment on n'a plus envie de bosser ensemble quoi.
Oui, c'est ça. La question centrale restant, est-ce que le salarié dans ce cas-là a droit aux indemnités chômage ? Donc est-ce qu'il part ? Et puis c'est pour sa poche, et s'il n'a pas de ressources, il ou elle ne peut pas partir. Mmh. Donc là, c'est un système qui va dans le sens qui est un peu pro-salarié quand même, qui a été mis en place. Dans tout un tas de trains de réforme qui vont plutôt contre les salariés, il faut rappeler qu'on a eu un contexte de durcissement de l'assurance chômage, beaucoup, et une loi récente pour le plein emploi qui renforce l'accompagnement des demandeurs d'emploi, leur fait signer un contrat où ils s'engagent à chercher des emplois, etc. Donc on fait énormément de choses du côté de l'assurance chômage, aussi pour accompagner plus les gens et un peu les pousser, rendre les conditions du chômage plus dures, les pousser à retrouver un emploi. Alors si dans le même temps, on rend aussi plus dur le fait de partir de son entreprise, les gens vont se retrouver accrochés à leur emploi comme un cocotier duquel ils voudraient vraiment pas tomber, quoi. Mm-hmm. Donc il y a un risque de ce côté-là, il me semble.
Denis Gravouille.
Madame Latour, d'abord, ça a été demandé par le patronat. Nous, on était contre en 2008. Il y a évidemment des usages qui sont adaptés. Hein. C'est voilà une bonne partie des ruptures conventionnelles. On ne sait pas quoi, hein, parce qu'on n'a que des études partielles. Il faudrait justement commencer par faire des études vraiment sur le point.
On ne sait pas qui prend l'initiative, en fait.
Déjà, on ne le sait pas, déjà. On ne s'est pas marqué. Ben, on pourrait faire des études là-dessus, mais faire des questionnaires, au moins des études qualitatives. Mais déjà, il faut juste rappeler un point. Hein, c'est que... on nous parle d'abus, on mélange les choses. Le ministre du Travail parle d'abus. La fraude à l'assurance chômage, c'est 0,21% des allocations. Ça, c'est le chiffre qui a été donné à l'Assemblée nationale il y a deux semaines. Donc, 0,21% d'abus. Donc, l'assurance chômage, on nous a parlé de flexi-sécurité dans tous les sens. Et là, on voit beaucoup de flexi, on voit pas beaucoup de sécurité. Parce que les employeurs ont voulu la rupture conventionnelle, on va pénaliser les salariés sur leur... sur le montant de leur allocation, c'est en gros ce qu'on nous demande. C'est un petit peu comme l'intérim. Le patronat, il a voulu l'intérim, maintenant on a eu l'intérim et on a baissé les droits à l'intérim.
On peut rappeler rapidement les règles. Dans quelles conditions on a le droit de bénéficier d'une rupture conventionnelle et quel est le délai de carence ? Je ne sais pas qui veut...
La rupture conventionnelle, c'est signé à l'amiable entre salarié et employeur.
Mais il faut être en CDI, évidemment.
Il faut être en CDI, oui. Hein, oui, il peut y avoir des ruptures conventionnelles sur des CDD, mais ça arrive pas souvent. Oui. Mais en général, c'est des CDI, des gens qui ont une certaine ancienne et qui veulent partir. Rarement après 50 ans parce qu'on a beaucoup de mal à retrouver du boulot, ça c'est un point. Et pendant un mois, on attend que l'inspection du travail, la DREITS, vous valide de façon tacite. Ils vérifient que pour les salariés protégés, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap ou avec un mandat de représentant du personnel. Et donc en fait, c'est accepté tacitement. Mmh. Donc déjà, on pourrait regarder s'il y a un vrai caractère amiable et s'il n'y a pas de salariés qui se retrouvent imposés une rupture conventionnelle.
Thomas Breda.
Pour compléter, oui, l'employeur doit payer une indemnité de départ au moins égale à ce qu'elle serait en cas de licenciement.
Voilà, donc c'était ça ma question. Ça important. Coûte aussi cher
c'est ça.
Qu'un licenciement.
Ouais, ça peut coûter plus cher parce que vous avez la possibilité d'ajouter une indemnité complémentaire. Sur la, souvent ça arrive d'ailleurs.
Voilà.
Et qui décale votre délai de carence du coup.
D'accord.
Donc, bon. C'est un tiers des gens, si je puis me permettre de donner les chiffres. Un tiers des gens seulement qui ont une indemnité supérieure au minimum légal. Et là, le projet justement semble être de vouloir imposer une carence, y compris pour ceux
exactement.
Qui ont les deux tiers de ceux qui justement n'ont que le minimum légal.
Pour c'est-à-dire faire
que
les 400 millions d'économies dont
exactement.
Parlait le
ça
ministre
que,
du Travail.
En fait, on aurait moins de droits si on a un licenciement économique, on aurait l'indemnité légale. Et là, on se retrouvera avec moins de droits qui ont été licenciés économiques. Donc là, c'est vraiment perdant pour les salariés. Le patronat a voulu pouvoir éviter le licenciement, la transformer en rupture conventionnelle, et mmh. on aurait moins de droits. On se retrouverait pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, là pour l'instant jusqu'à 5 mois, en devant vivre sur son indemnité de rupture, même légale.
Allez, on repart du côté du Standard. Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, vous aussi Quentin ?
Oui, en effet. Et comment ? En fait, là, votre sujet du soir m'a interpellé parce que je me retrouve dans le cas justement confronté à un salarié qui veut une rupture conventionnelle. Et du coup, un peu comme votre auditrice précédente, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire que mon salarié, tout se passe très bien avec lui. C'est lui qui décide de partir. Il a trouvé un autre travail ailleurs. Voilà, donc de ce côté-là, pas de souci. Mais il demande une rupture conventionnelle que j'ai refusée puisque c'est lui qui souhaite partir. Eh bien, voilà, bah du coup, je me retrouve depuis 15 jours avec un salarié qui est en arrêt maladie et qui, du coup, qui ne vient plus travailler. Et voilà. Je me retrouve bloqué.
Et donc, vous avez le sentiment de vous faire forcer la main?
Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas la première fois que je passe par là. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être que j'ai pas de chance, hein. Mais voilà, c'est pas la première fois que je passe par là. Et en fait, là, dans le cadre du travail, c'est un salarié qu'il faut absolument que je remplace parce que c'est dans du transport et on ne remplace pas un chauffeur. On coupe pas un chauffeur en deux pour qu'il aille partir sur deux choses différentes. Mmh. Donc, bah, du coup, ça fait des coûts pour l'entreprise, ça fait une surcharge de travail pour les autres salariés. Et donc, en fait, je vais être obligé d'accepter cette rupture conventionnelle puisque j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Et c'est là que j'ai l'impression de me retrouver bloqué. Alors, et pour la rupture conventionnelle, je suis tout à fait pour. Vraiment, dans les cas précédents qu'il y a eu avec des auditeurs, je suis tout à fait pour. C'est pas du tout le problème. Mais c'est qu'il faut que ce soit contrôlé. Alors, de quelle manière, je ne sais pas. C'est à réfléchir. Mais voilà, il y a de l'abus.
Alors, c'est intéressant. Et voilà. Il faudrait que ce soit contrôlé. Benoît Serre.
Alors, comme l'a rappelé Denis Grabouille, je rappelle quand même qu'une rupture conventionnelle doit être validée par l'administration. Alors certes, elle le fait sans doute de manière un petit peu légère, puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait un véritable contrôle. Donc ça, c'est un premier point.
Vous voulez dire que c'est une espèce de contrôle administratif ? Est-ce qu'on a bien rempli tous les papiers ?
Oui, dire que...
Et il n'y a pas de contrôle non, mais de fond.
Encore une fois, je repars sur les arguments sur les abus. Enfin, je rappelle, tout le monde a oublié, on a l'impression que les abus sont soit du fait du salarié, soit fait de l'entreprise. On oublie que l'administration valide tout cet ensemble, quand même. Mm-hmm. Donc, d'une certaine manière, elle fait partie du jeu. La deuxième chose sur la situation qui est décrite, il faut reconnaître, encore une fois, c'est la démonstration que légiférer par les abus ou supposés abus, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que fait la personne, dans le cas qui a été présenté ? Elle se met en arrêt maladie. Et en même temps, on nous explique qu'il faut réduire les coûts de l'arrêt maladie qui explosent, parce qu'il y a des arrêts maladie abusifs. On peut considérer comme la situation qui est donnée que c'est peut-être un arrêt maladie abusif. Alors du coup, on fait quoi ? C'est une rupture conventionnelle abusive, un arrêt maladie abusif. Enfin, on s'en sort comment ? Et moi, je pense aux chefs d'entreprise, des petites boîtes, ou pas des petites boîtes d'ailleurs, qui se retrouvent dans une situation totalement bloquée, où il a un salarié qui veut plus être là, qui est démotivé, qui est désengagé, qui se met en arrêt maladie. Enfin, vous cumulez, alors que, si ça se trouve, la meilleure solution, c'est trouver... effectivement, une voie à l'amiable, vous l'avez appelé ça un divorce à l'amiable, si
oui,
on veut.
C'est un peu ça.
Divorce à l'amiable et éviter de recourir au divorce pour faute.
Thomas Breda.
Peut-être deux éléments pour compléter. Le premier, c'est que le contrôle, on le fait déjà de plus en plus du côté des demandeurs d'emploi. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. On a un train de réformes qui durcissent l'assurance chômage, mais aussi font qu'il y a de plus en plus de contrôle des efforts de recherche d'emploi. Donc, il a déjà été mis en place, en un sens, ce contrôle. D'une certaine manière, on ne part pas aux Bahamas. Une fois qu'on a une rupture conventionnelle, on doit chercher un emploi. Mm-hmm. Donc, on peut encore le renforcer. Et il est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas mentionné, c'est que la rupture conventionnelle, c'est quand même souvent plutôt des cadres. Et c'est une forme séparation assez inégalitaire, quand même. C'est-à-dire, c'est plus souvent les cadres, professions intermédiaires, qui sont capables de négocier avec leur employeur de gré à gré, d'avoir ce type de séparation. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Le deuxième point que je voulais quand même évoquer, c'est que la France, dans les comparaisons internationales, et un pays où la qualité du travail est parmi les plus mauvaises. Les conditions de travail sont parmi les plus mauvaises. On a beaucoup d'accidents du travail. Alors, il y a peut-être des problèmes, effectivement.
Oui, il y a eu des chiffres désastreux récemment.
Voilà, c'est quand même quelque chose dont on parle assez peu, mais qu'il faut bien rappeler. Mmh. Donc là aussi, dans ce contexte-là, permettre des séparations, enfin, je vais dans le sens de ce que vous disiez, c'est peut-être pas une mauvaise chose, plutôt que de garder quelqu'un qui veut pas rester, qui voilà, a peut-être des conditions de travail trop difficiles, qui
veut faire
autre chose.
Qu'est-ce que ça raconte du monde du travail en ce moment, justement, Thomas Breda, votre avis, cette histoire de rupture conventionnelle qui a de plus en plus de souffrance au travail ou qu'au contraire, on a besoin de s'émanciper aujourd'hui et de dire bah, « moi j'ai envie de faire autre chose, donc je pars, mais je veux quand même bénéficier d'un peu de sécurité ». Qu'est-ce que ça raconte, au fond ?
Un peu les deux, probablement. Je pense que c'est forcément un mélange des deux situations. Je crois qu'on a cette situation de qualité, ce qu'on appelle qualité du travail qui est dégradée, qui fait que les gens, quand on leur donne un dispositif qui leur permet de négocier et de repartir vers autre chose, vont le prendre. Et puis oui, il y a sans doute des changements, des aspirations depuis le Covid, etc., des choses dont on a beaucoup parlé.
Mmh. Il y a quelque chose qui a vraiment changé sur les ruptures conventionnelles, Benoît Serre, depuis le Covid. Il y a eu une montée en puissance incroyable. Hein. 500 000 rien qu'en 2024, c'est beaucoup quand même.
Alors en fait, il y a un double phénomène. D'abord, vous l'avez rappelé, le Covid a quand même beaucoup plus traumatisé le monde du travail qu'on veut bien le dire. Mmh. Et on le voit, nous, sur le terrain, dire concrètement. On sent que les sujets d'engagement, les sujets de distance à l'entreprise, les sujets de qualité de travail, les sujets d'acceptation de l'intensification du travail, qui est réel et qui est un véritable problème, l'intensification du travail, ont généré ça. Il y a un autre phénomène, c'est que ça s'est, regardez les chiffres, quand ça s'est beaucoup augmenté, en fait, c'est plutôt 2022, 2023 et mi-2024. Vous étiez dans une phase très, très dynamique du marché du travail. Depuis, ça s'est un peu arrêté, mais à cette époque-là, si vous vous souvenez. Et par conséquent, les gens voulaient essayer de changer de job. Et vous savez, aux États-Unis, on a parlé de la grande démission. C'est un phénomène qu'on n'a pas connu en France. Mmh. On a connu un phénomène de grande mobilité. C'est-à-dire que jamais il y a eu autant de gens qui ont changé d'entreprise. Et ils ont essayé de recourir à la rupture conventionnelle pour pas prendre de risques. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, si ce que je vous explique, ça explique
c'est
les chiffres.
C'est pour ça peut-être qu'il y a plus de cadres,
alors, comme disait Thomas Breda. Parce que c'est plus facile à négocier, c'est évident. D'ailleurs, il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est plus de cadres et plus de gens qui sont dans des sièges. C'est-à-dire que vous prenez les usines ou le monde ouvrier, il est beaucoup moins concerné par ce type de rupture. À la fois, il est plus stable. Et il est moins concerné par la rupture conventionnelle. Donc ça, c'est un sujet, par exemple. Mmh. Parce que c'est effectivement un outil qu'on peut considérer comme inégalitaire. C'est évident. Mais donc c'est effectivement...
Est-ce qu'il y a une inégalité, pardon, aussi au niveau de la taille des entreprises ? Parce que c'est plutôt dans les petites entreprises qu'il y a des ruptures conventionnelles, Thomas Breda ?
Je ne sais pas vous répondre.
Ça peut être observé.
La statistique existe peut-être, mais je ne la connais pas.
Denis Gravouille.
C'est sûr qu'il y a une différence entre les cadres et non cadres. Ouais. Mais parce que du côté ouvrier employé, on le voit bien en ce moment, on l'a encore dit ce matin à la CGT en montant les nombres de plans de licenciement, bah, il y a des licenciements économiques, il y a des ruptures conventionnelles collectives. On avait inventé la rupture conventionnelle
collective. Mais on a le droit de faire une rupture conventionnelle.
Ah oui, il y a des trucs comme ça, on fait des ruptures conventionnelles
collectives. Mais ça veut dire que c'est un plan social qui ne dit pas son nom.
Exactement.
Ça.
Pas tout à
et
fait.
Donc, bah, c'est ce qu'on dit,
ah
nous,
bah,
en tout cas.
Ah bah non,
et,
mais c'est...
Et en tout cas, là où je suis d'accord avec vous, c'est que les conditions de travail en France sont particulièrement dégradées. Ça se voit sur le nombre de morts au travail, où on frôle les 1300, rien qu'avec les salariés du privé. On n'a même pas les salariés du public, qui sont pas les statistiques en question.
Oui.
Et c'est un problème majeur. On a un quart des salariés qui sont en souffrance, un tiers chez les cadres, c'est notamment avec les risques psychosociaux. Donc c'est une question. Et puis la mobilité, il faut pas que ce soit dans les deux. Je réponds à Quentin. On peut pas empêcher quelqu'un de partir. On peut pas motiver à quelqu'un à bosser quand il veut partir. C'est quand même. On nous a parlé de mobilité dans tous les sens, mais c'est seulement quand les employeurs le veulent. Ben non, c'est pas possible.
On parle des ruptures conventionnelles collectives, Benoît Serre.
Oui, elles sont assez utilisées.
Moi, je croyais que c'était uniquement de gré à gré, c'est-à-dire un employeur,
après,
un salarié.
Vous avez la rupture conventionnelle individuelle, un employeur, un salarié, et vous avez la possibilité de négocier avec les partenaires sociaux dans votre entreprise un accord dit majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a une majorité des syndicats représentant les salariés qui le signent, un accord de rupture conventionnelle collective. C'est assez utilisé, il faut le reconnaître.
Pourquoi ? Quel est l'avantage ?
Parce que c'est une manière... Parce que les entreprises, on peut dire tout ce qu'on veut, enfin, les entreprises aujourd'hui sont confrontées à des sujets de transformation de compétences, à un sujet de marché, enfin, l'état économique de la France est quand même pas brillantissime, donc elles ont besoin de se réorganiser, un certain nombre de choses.
Etc.
Il y a plein de raisons, et ça nous faudrait une autre émission pour en parler.
Ouais.
Et donc, beaucoup d'entreprises, à juste titre de mon point de vue, vont chercher une rupture conventionnelle collective parce qu'ils négocient les conditions de départ de tout le monde de manière équitable avec les partenaires sociaux de l'entreprise.
Et ça coûte moins cher qu'un plan social ?
Ça coûte souvent, souvent un peu plus cher. Mais ça se fait dans des conditions où les gens sont accompagnés, parce que vous avez l'obligation d'avoir un bureau qui les accompagne sur leur projet professionnel, ce qu'on appelle les congés de mobilité, vous avez des solutions pour les comptes de carrière. Moi, je suis un grand partisan de ce qu'on appelle la RCC, donc la rupture conventionnelle collective, parce que c'est une manière, parce que les entreprises, on ne peut pas nier que les entreprises ont besoin de s'adapter, petites et grandes, c'est une manière de le faire avec des conditions protectrices pour les salariés, sans empêcher l'entreprise de se réadapter.
Mais
je trouve que c'est plutôt un bon deal, mais je ne suis pas sûr que...
Il faut aussi voir le pic de rupture conventionnelle collective ou individuelle qui se font quelques années avant la retraite, c'est-à-dire juste pour faire la jonction. Et là, ce sont les employeurs qui mettent à la charge de l'assurance chômage des pré-retraites. Et là, c'est bien un problème. Le recul de l'âge de la retraite fait qu'on a des sas d'abord de gens qui ne sont même plus indemnisés entre... le moment où ils finissent l'indemnisation, et surtout que ça a été raccourci par 5 réformes d'assurance chômage depuis qu'Emmanuel Macron est là, et ensuite la retraite qui est reculée. Mmh. Mais là, on a un vrai problème, parce que on a une espèce de croyance comme quoi le recul de la retraite va faire automatiquement travailler des gens, alors qu'en fait, ils se font jeter à 55, 60, et qu'ils ne retrouvent pas du boulot.
Thomas Breda.
Donc pour compléter, la rupture conventionnelle collective par rapport au plan social, c'est des salariés qui sont aussi volontaires, en principe.
Voilà, c'était bon de le dire. Principe. On repart au standard. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir. Je vous remercie de prendre mon témoignage. Je voulais vous apporter mon témoignage en tant que professionnelle de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, donc dans leur recherche d'un emploi stable. Donc moi, ce que j'ai constaté, je suis dans ce métier depuis plus de 10 ans. Ce que j'ai constaté, et je ne suis pas la seule, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus de gens qui arrivent dans nos bureaux suite à des ruptures conventionnelles. Et nous, ce qu'on constate, en fait, c'est que dans un contexte où le monde du travail se durcit, où les conditions de travail deviennent très compliquées pour les salariés, parfois la rupture conventionnelle, c'est la dernière porte de sortie avant des choses beaucoup plus graves.
Burn-out, vous voulez dire ?
Style burn-out, avec des gens, moi, qui ont pu me donner des témoignages où si la rupture conventionnelle n'avait pas été acceptée, ils pouvaient aller jusqu'au suicide. Donc quelquefois, c'est la dernière porte de sortie. Après, moi, je comprends pas trop l'argument de dire que ça a un coût pour la société, parce que je sache, les demandeurs d'emploi qui... ont signé une rupture conventionnelle, effectivement, ils ont le droit à leurs assurances chômage, mais pour lesquelles ils ont cotisé. S'ils n'avaient pas suffisamment travaillé, ils n'auraient pas le droit au chômage. Donc,
absolument, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, ça. Absolument.
Voilà, c'est important.
Oui.
Donc voilà, moi, c'est ce que je constate au quotidien. Alors, je suis un peu étonnée d'entendre que ça concerne principalement des cadres, parce que moi...
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, Anne. Quels sont les profils, justement, que vous avez rencontrés, vous ?
Alors, c'est assez varié. J'ai pas fait de statistiques, honnêtement, j'ai pas le temps. Alors peut-être qu'il y a plus effectivement dans les cadres, sans doute parce que ils se disent qu'ils vont avoir plus de facilité à retrouver un emploi derrière que quelqu'un qui aurait un niveau de compétence moins élevé. Mais ça nous arrive de voir des ruptures conventionnelles, même chez des salariés autres que cadres. Mais vraiment, moi, voilà, j'insiste sur le fait. Alors, je m'oppose complètement aux ruptures conventionnelles collectives parce que là, pour moi, clairement, c'est des plans de licenciement masqués. Donc là, ça me semble tout à fait scélérat. En revanche, quand c'est à la demande du salarié parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est déjà dans le burn-out et qu'il sent que c'est sa santé mentale ou physique qui est en danger, pour moi, c'est la dernière porte de sortie avant des choses beaucoup plus graves. Vaut mieux une rupture conventionnelle qu'une rupture de vie.
Absolument. Merci d'avoir témoigné, Anne. Je vais vous interrompre parce qu'on va partir à l'Assemblée nationale. Retrouver Julien Nenny. Bonsoir, Julien.
Bonsoir, Christelle.
Ça y est, le budget de la Sécu a été adopté avec 13 voix d'écart, c'est ça ?
Oui, 247 voix pour, 234 contre, vous comptez bien Christelle, 13 petites voix d'avance, c'est dans un mouchoir de poche, donc si vous me permettez l'expression, que les députés ont adopté ce budget de la sécurité sociale. On savait que ce serait très serré, c'est peut-être un tout petit peu moins serré que certains évaluaient ces dernières minutes, ils pensaient que ça passerait à 2-3 voix d'avance, finalement c'est 13, donc on accueille ça avec humilité, me confie à l'instant une source gouvernementale. Ça prouve, je cite, qu'on obtient plus par le débat parlementaire dans le respect des institutions l'information qu'avec le chaos et la conflictualisation ou la censure compulsive. Ça, c'est pour la France insoumise, vous l'aurez compris. Et cette victoire ce soir, c'est donc aussi avant tout une grande victoire politique, il faut le dire, pour le Premier ministre Sébastien Lecornu et sa méthode qu'il a surnommé lui-même le filtre à café, traduction abandonner le 49-3 pour mettre les députés face à leurs responsabilités. Mais attention, un autre gros morceau arrive dans quelques jours à nouveau ici à l'Assemblée, c'est le budget de l'État, le PLF comme on l'appelle ici, et là encore c'est très très loin d'être gagné pour le gouvernement.
Donc on risque de revivre cette même séquence en fait dans les prochaines semaines, Julien.
Oui, ça sera même encore plus difficile à faire passer, parce qu'il faut comprendre que le budget de l'État, le PLF, c'est un texte encore plus politique que le budget de la sécurité sociale, et donc un groupe comme les socialistes par exemple, le Parti Socialiste, aura beaucoup plus de mal à voter pour comme ils l'ont fait aujourd'hui. Ils pourraient au mieux s'abstenir, et donc sans trop de suspense, le gouvernement devrait avoir recours à ce qu'on appelle la loi spéciale pour faire adopter ce texte, réadopter les mesures du budget de l'an dernier. Ça veut dire qu'il faudra à nouveau en discuter en début d'année prochaine. Bref, vous l'avez compris Christelle, on n'est pas sorti de l'auberge.
Il y en a pour un petit moment. Merci beaucoup Julien Nenni. On revient à notre débat du téléphone sonne ce soir autour des ruptures conventionnelles, et on a Pascal qui est en ligne avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, Pascal.
Oui, je disais, moi je suis un ancien cadre, j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle en fin de carrière. En fait, c'est une façon, je trouve, maintenant, alors bien sûr j'en ai bénéficié, donc je vais pas cracher dans la soupe, mais je trouve que le système est beaucoup trop avantageux, parce que ça permet aux gens de partir à la retraite plus tôt, et ça c'est quand même une forme de... Bah, ça coûte cher quand même à la collectivité. Aujourd'hui, quand ça coûte 9 milliards d'euros, qu'on cherche aujourd'hui des économies partout, je trouve que c'est bien, la rupture conventionnelle, mais il y en a beaucoup trop en fin de carrière, à partir de 55 ans, où on peut partir à la retraite beaucoup plus tôt grâce à la rupture conventionnelle et avec un système très avantageux dont j'ai bénéficié. Je trouve que c'est trop. Maintenant, tant mieux pour moi, mais voilà, je trouve que c'est pas tout à fait normal. Comme la sécurité sociale, il y a le trou de la sécu, mais on sait aujourd'hui que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc si on ne paye pas un petit peu plus cher nos médicaments, eh bien il faut les payer un tout petit peu, comme ça il n'y a pas de gabegie.
Donc vous nous dites, voilà, si j'entends bien Pascal,
tout le monde paye un petit peu. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et donc
vous
on
nous dites
trop.
C'est bien, voilà,
il faut que ça
mais
nous coûte.
C'est bien, mais voilà, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher.
Voilà.
Benoît Serre.
Et moi je serais parti quand même en touchant une indemnité 20% moins élevée. C'est normal, je pars, je travaille plus. Pourquoi j'ai droit pratiquement à la totalité de mon salaire?
Je ne travaille plus
le matin, j'ai plus de frais de déplacement.
On en parle tous ensemble. Benoît Serre.
Non, mais
Pascal, il nous dit que ça coûte trop cher au fond. J'ai eu la chance d'en profiter, mais ça coûte trop cher.
Je suis ravi pour lui qu'il en ait profité. Mais d'abord, il y a un dispositif qui est utilisé, alors là, pour le coup, beaucoup par les grandes entreprises, parce que ça coûte très cher, qui s'appelle les congés de fin de carrière. C'est-à-dire qu'on accepte que quelqu'un, mais ça c'est par convention dans l'entreprise, normalement c'est des accords collectifs d'ailleurs, quelqu'un part à la retraite, il arrête d'avoir une activité, mais il est toujours rémunéré par l'entreprise, quelquefois pas à 100% de son salaire, même si les cotisations sont 100%, bon, c'est un peu compliqué, mais ça se fait, c'est ce que j'appelle vraiment des outils de chômage de masse, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des solutions. Aujourd'hui, on sait très bien, parce que depuis le plan senior qui avait été fait l'an dernier, qui a donné lieu à beaucoup de débats et de discussions, il y a même un projet de loi, l'âge c'est plutôt 57 que 55 aujourd'hui. Ça s'est décalé, pas à cause de l'âge de la retraite, ça s'est décalé, et je pense d'ailleurs que ça va s'améliorer. En revanche, il est vrai que j'ai vu aussi que le gouvernement voulait remettre en cause peut-être le dispositif de cumul emploi-retraite, ce qui me paraît pas très malin. Tout ça pour dire que ce sont des dispositifs qui coûtent cher d'abord à l'entreprise avant de coûter à la collectivité. Et qui permettent à des gens d'aller jusqu'à la retraite en étant d'une certaine manière protégés, parce que comme l'entreprise cotise à 100%, ils ont leur taux plein, qui est quand même un sujet très important. Il faudra d'ailleurs voir comment le contrat de valorisation de l'expérience qui a été voté récemment.
Mais parfois, peut-être, certains préféreraient-ils travailler jusqu'à la fin?
Oui, mais vous savez, un congé de fin de carrière, la personne doit l'accepter. C'est un système volontaire. C'est pareil. Vous ne pouvez pas mettre de force quelqu'un. Vous savez qu'il y a une politique particulière dans la loi française, c'est que l'entreprise ne sait jamais à quelle date la personne a le taux plein. Il n'y a que le salarié qui le sait.
Thomas Breda.
Moi, je ne crois pas que la rupture conventionnelle soit... Enfin, le sujet des fins de carrière est un sujet important, mais la rupture conventionnelle, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la solution ou très liée à ce problème-là. Un salarié qui ne veut plus travailler en fin de carrière, l'employeur va devoir le licencier. et lui verser une indemnité de départ, et cette personne aura le chômage jusqu'à ce qu'elle soit à la retraite. C'est pas tant la rupture conventionnelle qui va changer ça. Il y a un point quand même qu'on a peu abordé, c'est que un des objectifs initiaux de la rupture conventionnelle, c'est aussi de limiter le contentieux au prud'homme.
Absolument.
Il y a énormément de licenciements pour motifs personnels qui sont contestés. Il y a 30%, et dans 60% des cas, les salariés gagnent. D'accord, et donc, ils ont des indemnités plus élevées, etc. Et le coût de ces procédures, c'est un coût pas forcément que monétaire, enfin, il y a un coût juridique, mais c'est un coût psychologique pour les salariés, c'est un coût de ressources humaines pour l'employeur. Donc, un des objectifs, partiellement atteint, parce que c'est pas tous les licenciements qui sont remplacés par des ruptures à l'amiable, mais quand même atteint, à peu près 20% des licenciements ont été remplacés par ces ruptures conventionnelles. Et ça, ça permet de limiter un peu le contentieux et les coûts. Donc il y a aussi des économies de ce point de vue-là.
Est-ce qu'il faudrait refondre un petit peu le système ou pas? Ou il faut le laisser tel qu'il est parce que finalement, ça fonctionne très bien et ça fluidifie le marché de l'emploi, Denis Gravouille?
Mais le témoignage de Pascal, il raconte quelque chose. Il raconte le fait que les employeurs aiment bien faire partir, plutôt qu'à la retraite, des gens qui ont un salaire plus élevé que forcément ceux qui démarrent. C'est un effet Noria, comme ça. Et donc non, Pascal, vous n'en avez pas profité abusivement. L'employeur en a profité largement plus que vous. Il a réussi, du coup, à faire baisser sa masse salariale. Et en partie, il a payé une partie. Et l'autre partie a été payée par les droits au chômage que vous auriez eu si vous étiez licencié. Donc, ce qu'il faut regarder, encore une fois, on est dans un système où on est en train... Parce que ça fait le lien avec le PLFSS, avec le budget qui vient d'être voté.
Oui.
C'est que c'est budgété là-dedans, ces économies-là. On est en train d'inventer des prétextes pour aller raboter des droits. Et c'est ça qu'il y a derrière. Et on pourrait évidemment retrouver d'autres situations, par exemple sur les droits à l'assurance maladie, mais c'est une autre émission.
Benoît Serre.
Juste un mot. En fait, tous ces dispositifs dont on a parlé, la rupture conventionnelle, le congé de fin de carrière, tous ces éléments-là, sont aussi des outils qui permettent de compenser le fait qu'on a un marché du travail qui est très sclérosé, en fait, qui est très hyper protégé parce qu'on a vécu 40 ans de chômage de masse. Donc aujourd'hui, évidemment, compte tenu de la situation politique, ça n'arrivera pas. Je pense que la vraie question à se poser, c'est comment on repense le modèle de fonctionnement juridique, législatif et protecteur du travail, plutôt que passer son temps à mettre, c'est un peu excessif, mais à mettre des logiques de pansement comme la rupture conventionnelle, collective, individuelle, etc. Je pense que le vrai sujet, il est là, parce qu'on a un modèle du travail et de son organisation de la législation qui n'est plus adapté à la réalité économique. C'est comme ça. Ça fait plaisir ou pas plaisir, mais c'est la réalité.
Thomas Breda.
Alors, je vous rejoins partiellement. Les économistes parlent de marché du travail duel. Donc, il y a d'un côté des contrats courts, très nombreux, beaucoup d'embauches en contrats courts, et puis le Graal du CDI, très protégé, etc. Et donc, la rupture conventionnelle, elle vient un peu au milieu, rendre plus facile les fins de CDI, les transitions, dans ce contexte-là. Et ce qu'on a fait pour les entreprises, c'est bonus-malus. C'est-à-dire, les entreprises qui utilisaient trop de contrats courts, elles généraient des coûts pour l'assurance chômage et on les a fait payer davantage. Dans certains secteurs. On pourrait imaginer des solutions qui vont dans ce sens-là pour les ruptures conventionnelles aussi. Les entreprises qui en abusent, on les fait payer un peu plus.
Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Benoît Serre, Thomas Breda, Denis Gravouille, merci à vous tous qui êtes intervenus à l'antenne.